Merci d'écouter RFI. 9h à Port-au-Prince, il est 13h en temps universel et 15h à Paris.
RFI Midi.
Anne Contner.
Dernière partie, nous sommes sur le continent américain durant la prochaine demi-heure. Les deux candidats à la présidentielle aux États-Unis sont de nouveau sur le terrain. La campagne a repris, encore marquée par la tentative d'assassinat contre Donald Trump dimanche dernier. Nous parlerons aussi à un mois et demi de la présidentielle, des perspectives géopolitiques avec notre invité, auteur d'un livre sur la politique étrangère des États-Unis. On parlera aussi de la polémique concernant l'élection présidentielle de juillet au Venezuela qui fait débat. Jusqu'en Europe, certains députés conservateurs voudraient faire reconnaître l'opposant Edmundo González Urrutia comme le vainqueur de cette élection. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises. Benoît Ferrand, le préfet de Martinique, ne veut pas retransmettre en direct les réunions consacrées à la crise du coût de la vie.
Oui, le préfet reste, comme on dit, droit dans ses bottes. Il n'accédera pas à la demande du mouvement à l'origine des troubles actuels contre la vie chère, le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens. Nous entendrons le préfet tout à l'heure.
À tout à l'heure, Benoît Ferrand. Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne Contner, bonjour à tous.
Les tensions sont donc encore montées au Proche-Orient après les événements d'hier au Liban.
Oui, un nouveau bilan publié à la mi-journée à Beyrouth fait état de 12 morts, dont 2 enfants et près de 3000 blessés pour la plupart des combattants du Hezbollah. Les victimes ont été blessées, vous le savez, par l'explosion simultanée de beepers, des radiomessageries utilisées par le parti pro-iranien. Depuis, tous les regards sont tournés vers Israël, dont les services secrets, le Mossad, auraient mis au point une attaque très sophistiquée. Plusieurs mois avant les explosions, le Mossad aurait placé de petites quantités d'explosifs dans des milliers de beepers pour lesquels le Hezbollah avait passé commande. Et ces beepers auraient explosé lorsqu'un message codé leur a été envoyé hier après-midi. Évidemment, Israël ne confirme rien alors que son allié américain nie toute implication. Le secrétaire d'État s'est exprimé aujourd'hui lors de sa visite officielle au Caire, Anthony Blinken.
En ce qui concerne le Liban, les États-Unis n'étaient pas au courant de ces incidents et n'y ont pas participé. Et nous continuons à rassembler les informations et les faits. D'une manière générale, nous avons été très clairs et nous restons très clairs sur l'importance pour toutes les parties d'éviter toute mesure susceptible d'aggraver le conflit que nous essayons de résoudre à Gaza et de le voir s'étendre à d'autres fronts.
Le patron du département d'État tout à l'heure au Caire. D'autres réactions. Au Liban, le Hezbollah accuse Israël et promet des représailles. Solidaire du Hezbollah, l'Iran dénonce une tuerie de masse. Enfin, la Russie, elle s'inquiète d'une escalade dangereuse.
Et puis, il y a aussi cette question. Qui a fabriqué les beepers piégés?
Le groupe taïwanais Gold Apollo a démenti les informations du New York Times, selon lesquelles il avait lui-même produit et vendu ses appareils transformés en mini-bombes. Pourtant, les beepers portaient bien la marque de ce groupe taïwanais, mais à Neshakumor, ils auraient été fabriqués et commercialisés par un partenaire hongrois travaillant sous licence.
La tension est palpable. Le directeur de Gold Apollo persiste et signe devant les journalistes réunis dans le siège de son groupe à Taipei.
Ce ne sont pas nos produits. Ce ne sont pas nos produits du début à la fin.
D'après New York Times, 3000 exemplaires de beepers, essentiellement du modèle AR-924, avaient été commandés par le Hezbollah au groupe Gold Apollo de Taïwan. Il portait sa marque. Mais le chef d'entreprise taïwanais est catégorique. C'est la société hongroise BAC, basée à Budapest, qui avait été autorisée en vertu d'un accord de coopération entre les deux groupes à utiliser la marque de Gold Apollo pour la vente de produits dans certaines régions. La conception et la fabrication de ces produits sont donc de l'unique responsabilité de ce partenaire. La PDG de la société hongroise BAC, interrogée par la chaîne américaine NBC, a rétorqué qu'elle a bien travaillé avec Gold Apollo, mais a nié toute implication dans la fabrication. « Je ne fais pas les beepers, je suis juste une intermédiaire. Vous faites erreur », a-t-elle déclaré.
Merci, voilà ce que l'on pouvait dire à Anish Kakumor sur les suites de cette attaque meurtrière au beeper hier après-midi au Liban. À New York, l'Assemblée générale de l'ONU doit approuver ce soir une résolution exigeant la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens dans les 12 mois. Ce projet fait suite à l'avis rendu cet été dans ce sens par la Cour internationale de justice, la CIJ. Le texte est non contraignant. C'est le premier présenté au nom de l'État observateur de Palestine à l'ONU. Sa probable adoption est déjà fustigée par Israël.
On s'intéresse maintenant à la campagne présidentielle aux États-Unis.
Oui, la candidate démocrate Kamala Harris est à nouveau rendue dans l'État clé de Pennsylvanie, l'un des swing states où les décisions devraient se faire. Au programme de son passage à Philadelphie, une interview accordée à des journalistes afro-américains. Nous retrouvons sur place Guillaume Nodin.
Aux États-Unis, la question raciale structure la vie sociale et politique. Les Afro-Américains votent en grande majorité pour les démocrates, sauf que des études d'opinion montrent que de plus en plus de jeunes hommes noirs s'intéressent aux politiques économiques de Donald Trump. Mais depuis le début de sa campagne, Kamala Harris essaie de ne pas faire de sa couleur de peau un argument électoral.
Les hommes noirs sont comme n'importe quel groupe d'électeurs. Il faut gagner leur vote. Donc je travaille à gagner leur vote en ne les tenant pas pour acquis parce que je suis noir, mais parce que mes politiques et mes points de vue comprennent ce que nous devons faire pour répondre aux besoins de toutes les communautés.
Le racisme est revenu en force dans la campagne depuis plus d'une semaine avec les fausses accusations contre les migrants haïtiens qui mangeraient des animaux de compagnie dans l'Ohio. Des stéréotypes que dénonce Kamala Harris, surtout venant de la bouche de son adversaire républicain.
Vous devriez vraiment comprendre très profondément à quel point vos mots ont un sens, en particulier quand vous avez été et que vous cherchez à redevenir président des États-Unis d'Amérique.
Et une fois de plus, Kamala Harris se dit persuadée que les Américains sont prêts à tourner la page Trump. Guillaume Nodin, Washington. RFI.
En bref, maintenant, cela faisait 10 ans qu'il n'avait plus voté. Les électeurs du Cachemire, région indienne, mais contestée par le Pakistan, sont mobilisés aujourd'hui et jusqu'au 30 septembre par un scrutin local. 23 morts, c'est le nouveau bilan des intempéries provoquées par la tempête Boris en Europe centrale et orientale. Une quatrième victime a été découverte en République tchèque, l'un des pays les plus touchés avec l'Autriche, la Pologne et la Roumanie. Au Portugal, les incendies ont fait 7 morts et ravagé des milliers d'hectares de végétation dans le nord et le centre du pays. Une quarantaine d'incendies mobilisent toujours les pompiers portugais.
Le sport peut dire merci aux énergies fossiles.
Ce secteur des énergies fossiles finance en effet le sport à hauteur de 5,6 milliards de dollars, calcul fait par le New Weather Institute. Au total, plus de 200 accords de sponsoring sont en cours. Le football arrive en premier, mais il y en a beaucoup d'autres. La liste est longue. Voyons avec vous, Pauline Glaise, qui finance quoi ?
La société publique saoudienne Aramco est celle qui investit le plus dans le parrainage. Derrière elle, Ineos, peut-être plus connu du grand public d'ailleurs pour son implication dans le sport que pour ses produits pétrochimiques. Les majors Shell et Total Energy complètent le top 4. Selon le New Weather Institute, l'intérêt pour ces entreprises, Gilles, c'est de favoriser leur acceptation sociale et de détourner l'attention de leur rôle dans le réchauffement climatique. Si ces 5,5 milliards de dollars ne représentent qu'une petite partie de l'argent brassé par le sport, ils ne prennent pas en compte les dépenses dans des entreprises ou des franchises sportives financées par le secteur fossile. Une relation jugée contradictoire par le New Weather Institute qui souligne l'impact négatif pour les sportifs de la pollution de l'air et du réchauffement climatique. La prise de conscience climatique se fait, cela dit, peu à peu dans le monde du sport et dans le public. L'an dernier, Total Energy, sponsor du mondial de rugby, avait dû se faire discrète dans les fan zones parisiennes. Avant ça, la Major avait même renoncé à être sponsor des Jeux Olympiques 2024.
Merci Pauline Glaise du service environnement. Très bonne journée sur RFI. Tout de suite, vous retrouvez Anne Cantner.
Pour la suite et la fin de RFI Midi, nous sommes sur le continent américain pendant les 20 prochaines minutes et d'abord aux États-Unis.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Les États-Unis où la campagne a repris, Donald Trump était hier à Flint, dans l'un des fameux swing states, ces états pivots incertains à même de faire basculer l'élection. Flint, c'est une ville symbole de la crise qui frappe l'industrie automobile dans le Michigan. Mais Donald Trump n'a pas parlé que de ça, David Thompson. Il est aussi revenu sur l'arrestation de l'homme soupçonné d'avoir voulu l'assassiner dimanche dernier.
Autour de lui, la sécurité est renforcée. En plus des gardes du corps habituels, des policiers d'élite le suivent au millimètre avec fusil d'assaut, casque et gilet pare-balles. Deux jours après sa seconde tentative d'assassinat en deux mois, Donald Trump rend hommage à ses agents du Secret Service qui le protègent au quotidien et en particulier à celui qui a repéré cet homme armé sur son golfe de Floride dimanche.
Un des agents marchait deux trous devant moi et il voit un fusil, un AK-47, un truc plutôt sérieux je crois. Et il voit le canon de l'arme sortir des buissons. Vous imaginez ? Le gars était prêt, il était prêt à faire son coup. Alors l'agent n'a pas dit un mot, il n'a pas dit « Bonjour, qu'est-ce que vous faites là, s'il vous plaît ?» Il a sorti son arme et il a commencé à lui tirer dessus. Et le type s'est enfui en courant.
Vous avez littéralement pris une balle pour notre pays. Mais Dieu n'en a pas fini avec vous, lui lance son ancienne porte-parole Sarah Huckabee Sanders présente sur scène avec lui. Seuls les présidents importants se font tirer dessus, ironise Trump, qui précise avoir reçu un appel de Joe Biden et de Kamala Harris. Appel, dit-il, très gentil, de la vice-présidente, qu'il accusait pourtant la veille d'être responsable de ses tentatives d'assassinat. David Thompson, Miami RFI.
Et alors que Donald Trump était dans le Michigan, sa rivale démocrate, elle, tenait un meeting en Pennsylvanie. Le swing state parmi les 7 swing states, ces États donc très indécis où se jouera très certainement la présidentielle du 5 novembre. Comment les deux prétendants, Donald Trump et Kamala Harris, tentent de séduire l'électorat de ces États ? C'est à la une de votre revue de presse, Harim Leipold.
Oui, bonjour Anne, bonjour à tous. On ne peut pas gagner l'élection présidentielle sans remporter la Pennsylvanie. Selon USA Today, cet État du Midwest est plus convoité que jamais. Donald Trump s'y est imposé en 2016 face à Hillary Clinton, mais a perdu en 2020 contre Joe Biden. Cette année, écrit USA Today, le candidat républicain fait tout pour percer à nouveau parmi la population rurale, alors que Kamala Harris tente de séduire l'électorat urbain de Philadelphie, Pittsburgh et de Harrisburg. D'après le quotidien américain, ce sont les électeurs indépendants dans le nord-est de l'État qui pourraient se révéler décisifs, des électeurs dont beaucoup appartiennent à la communauté latino. Kamala Harris a déployé des moyens importants pour la convaincre de voter pour elle. Mais Donald Trump fait également des yeux doux à ces millions de latinos, notamment ceux qui partagent des valeurs conservatrices et qui s'inquiètent de la situation économique. La course sera très serrée, estime USA Today. Et les deux candidats le savent très bien, ce n'est pas un hasard. Si Donald Trump et Kamala Harris s'y rendent fréquemment au cours de leur campagne.
Et dans cette course très serrée, un soutien de poids pour la candidate démocrate. Un de plus, après celui affiché par la chanteuse qui affole tous les compteurs, Taylor Swift, c'est une autre star qui prend la parole, Billie Eilish, dans une vidéo publiée avec son frère, musicien lui aussi.
We are voting for Kamala Harris and Tim Walz because they are fighting to protect our reproductive freedom, our planet and our democracy.
Nous votons pour Kamala Harris et Tim Walz parce qu'ils se battent pour nos droits reproductifs, pour notre planète et pour notre démocratie.
Is to vote and elect Kamala Harris.
Vote like your life depends on it because it does.
Votez comme si votre vie en dépendait parce que c'est le cas. Voilà l'appel de Billie Eilish, la chanteuse la plus écoutée sur Spotify. Elle vient donc d'afficher son soutien à Kamala Harris. Pour l'instant, vous nous le disiez, Harim, les sondages sont très serrés entre les deux candidats et beaucoup dans le monde se demandent à quoi ressemblera la politique étrangère des États-Unis. S'interrogent sur les orientations de Kamala Harris et de Donald Trump, sur les contraintes aussi qui pèsent sur les États-Unis dans la nouvelle donne mondiale ou encore sur leurs opportunités. Toutes ces questions, elles sont au cœur d'un livre publié par Laurence Nardon, chercheuse à l'Institut français des relations internationales et invitée de Joris Zilberman.
Quand je me suis interrogée sur la puissance américaine aujourd'hui, j'ai regardé les différents instruments de la puissance. La force militaire américaine sur l'économie, sur la technologie, le soft power aussi, qui est le pouvoir d'influence. Et puis le dernier, le pouvoir juridique américain, le fait que le juge américain puisse sanctionner des acteurs étrangers qui ne sont pas américains. Et pour chacun de ces instruments de puissance, en fait, ce que j'ai constaté à la fin, c'est qu'aujourd'hui, malgré la montée de la Chine, etc., eh bien, les États-Unis restaient de loin même la première puissance. Dans l'économie, on a longtemps dit que la Chine allait peut-être dépasser les États-Unis. Eh bien, avec le Covid, on voit aujourd'hui que la Chine est en ralentissement et donc un dépassement des États-Unis par la Chine en termes de puissance économique n'est plus vraiment à l'ordre du jour. Qu'est-ce que ça veut dire pour la puissance américaine ? Ça veut dire qu'en fait, s'ils veulent jouer un rôle dans le monde dans les décennies qui viennent, c'est à eux de le décider. Enfin, c'est leur décision. Ils peuvent s'ils veulent. Et là, on entre dans un nouveau domaine qui est quel est le courant de politique étrangère qui domine à Washington aujourd'hui. Est-ce que c'est un courant qui souhaite plutôt le repli, qui est plutôt isolationniste, comme on disait avant, ou est-ce qu'on a toujours une Maison Blanche et un Congrès qui veulent que leur pays soit prédominant dans le monde ?
Mais est-ce que c'est ça, justement, l'une des grandes constantes de la géopolitique américaine ? C'est qu'elle dépend de qui est aux manettes, qui est à la Maison Blanche. Est-ce que ce n'est pas aussi sa faiblesse ?
Oui, le président se fait élire sur un programme, et c'est vrai qu'il y a des mouvements de balancier très importants entre les différents présidents, ceux qui sont plutôt pour une politique étrangère morale, ceux qui sont plus cyniques, ceux qui veulent intervenir, ceux qui ne veulent pas intervenir, ceux qui croient au multilatéralisme, enfin le fait d'agir avec les autres pays, ou ceux qui sont plus égoïstes, les États-Unis agissent tout seuls. En ce moment, on est dans une période où les États-Unis ont quand même manifestement envie d'en faire moins et de se concentrer sur leurs propres problèmes.
Laurence Nardon, dans votre ouvrage sur la géopolitique de la puissance américaine, vous développez cette idée que les États-Unis se retrouvent aujourd'hui, bien malgré eux, dans la configuration du monde des années 1950, c'est-à-dire...
Si on regarde les conceptions anglo-saxonnes de la géopolitique, il y a une opposition permanente entre les puissances maritimes d'un côté, qui ont été représentées par la Grande-Bretagne et puis ensuite par les États-Unis, et puis de l'autre côté, la grande masse eurasiatique terrestre, représentée par la Russie avec ses satellites en Europe de l'Est, et puis la Chine de l'autre côté. Et ça, avec la montée d'une Chine relativement volontaire et puissante et une Russie revancharde qui envahit l'Ukraine, cette grande opposition, elle a repris beaucoup d'importance depuis 2022 et même peut-être 2014, les premières attaques russes sur l'Ukraine.
Et vous êtes même plus précise dans votre livre, vous présentez les deux centres névralgiques de la politique étrangère américaine, le pivot ukrainien associé au pivot asiatique.
Oui, alors c'est vraiment très ironique de voir que depuis Obama, avec Kurt Campbell notamment, les États-Unis essayent de se consacrer, de tourner toutes leurs forces vers l'Indo-Pacifique, qui est vraiment le nouveau pivot géopolitique dans leur vision. Et à chaque fois, ils n'y réussissent pas parce qu'ils sont rattrapés par les crises en Europe ou en tout cas au Moyen-Orient. Le pivot en Ukraine, c'est quelque chose qui est théorisé par un Britannique qui s'appelle Mackinder au début du XXe siècle. Donc, il explique que si on domine les régions autour de l'Ukraine, ce qu'il appelle le pivot ukrainien, eh bien, on va dominer le monde parce que ça permettra de dominer à la fois la masse russe d'un côté ou de l'autre, les côtes de la puissance maritime. Et c'est assez ironique de voir que Kurt Campbell, qui est le théoricien actuel du pivot vers l'Asie, a utilisé ce même terme, un pivot vers l'Asie. Ça montre bien que dans la géopolitique américaine telle qu'elle voudrait se déployer aujourd'hui, ce qui est important, c'est de contrôler toute la zone maritime autour de la Chine pour contrôler cette nouvelle puissance. Et aujourd'hui, avec le retour d'une guerre en Europe, en Ukraine, on voit bien que malheureusement, parce que c'est assez compliqué, les États-Unis doivent jouer sur ces deux pivots, ces deux zones de crise.
Une double contrainte stratégique donc. Et alors, vous qui suivez de près la campagne pour la présidentielle américaine, comment est-ce que vous comprenez les premières orientations de politique étrangère de la candidate démocrate Kamala Harris ?
Lors de son discours à la convention démocrate, c'était fin août, elle a assuré que la défense américaine serait renforcée, qu'elle s'occuperait de tous les soldats, qu'elle serait très, très en pointe en tant que commander-in-chief. Elle était obligée d'avoir un discours comme ça, un petit peu ferme, un petit peu viril, entre guillemets, parce qu'elle se présente au public comme candidate, donc elle est obligée de cocher cette case d'un commander-in-chief très efficace. Maintenant, sur le fond, elle est touchée, elle aussi, par cette tendance montante au repli dans la politique étrangère américaine, et il faudrait voir ce que ça donne si jamais elle est élue. On n'en sait pas vraiment plus pour l'instant. La chose sur laquelle elle a été à peu près constante ces dernières semaines, c'est d'assumer une position médiane sur la question de Gaza, de la guerre entre Israël et le Hamas, Elle a une rhétorique qui est quand même plus prudente sur le soutien à Israël et plus attentive aux souffrances palestiniennes. Peut-être en effet qu'une Kamala Harris élue conditionnerait les livraisons d'armes à un certain nombre d'avancées en termes de cessez-le-feu ou d'interruption des frappes sur Gaza ou des exactions en Cisjordanie.
Et face à Kamala Harris, qu'est-ce que le candidat républicain Donald Trump a dit de ses priorités diplomatiques stratégiques ? Est-ce qu'il va, selon vous, faire exactement la même chose que lorsqu'il était à la Maison-Blanche entre 2017 et 2020 ?
Alors c'est très difficile de le savoir parce que Trump, dans ses meetings de campagne jusqu'à présent, n'a pas été très clair sur ce qu'il ferait, sauf évidemment sur l'Ukraine, où il a dit qu'il interromprait le soutien américain immédiatement et qu'il engagerait des pourparlers pour rétablir la paix entre les deux parties en un jour, il a dit. Hein. Donc on voit bien qu'il serait à nouveau très partisan d'un repli américain.
Laurence Nardon, auteur de Géopolitique de la puissance américaine.
RFI, as vozes do mundo.
Réunion de crise hier au Brésil face à la progression des incendies dans plusieurs régions du pays. Réunion en présence du président Lula.
La nature a décidé de montrer ses garras.
La Terre a décidé de montrer ses griffes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas préparés à 100% pour gérer ces situations. Voilà l'aveu du président qui fait la une des journaux brésiliens.
Oui, des paysages apocalyptiques, des terres brûlées, des rivières sans eau et des habitants désemparés, certains coupés du reste du monde par un mur de feu. C'est ce qu'on découvre dans un reportage du journal Folha de São Paulo avec des images spectaculaires. Aux incendies s'ajoute la sécheresse en Amazonie. Les fleuves, qui sont souvent le seul moyen de se déplacer dans cette région, deviennent innavigables. Les habitants n'en peuvent plus. Ils respirent de la fumée depuis plusieurs semaines, écrit le site d'information Amazonia Real. Certains se sont mobilisés. On demande de l'aide auprès des autorités locales et fédérales, notamment des livraisons d'eau potable. Mais pour l'instant, écrit Amazonia Real, ils n'ont reçu aucune réponse. Anne.
Autre sujet à lire dans la presse, l'ONU qui pointe du doigt la répression sans précédent du gouvernement vénézuélien.
Oui, le journal El Nacional, par exemple, publie une interview donnée par l'ancien directeur du SEBIN, le service de renseignement à la presse argentine. Manuel Cristofa Figuera a dirigé ce service sous la présidence de Nicolas Maduro jusqu'en 2019, lorsqu'il a décidé de démissionner et de fuir le pays. Cet ancien homme clé de l'appareil répressif de l'État vénézuélien, comme le décrit le journal argentin La Nación, dénonce, je cite, une machine de terreur, de persécution et de mort actuellement déployée sous les ordres de Nicolas Maduro. Selon Manuel Cristofa Figuera, c'est le président lui-même qui est directement responsable de la répression contre la population Anne.
Voilà, Achim Lipold pour votre revue de presse à retrouver sur internet rfi.fr. Nicolas Maduro, dont la réélection est toujours contestée, réélection qui fait débat jusqu'en Europe. Les députés européens se prononceront demain sur une résolution proposée par la droite, par les conservateurs du PPE. Ils veulent faire reconnaître l'opposant Edmundo González Urrutia comme le vainqueur de la présidentielle de juillet dernier. Les conservateurs comptent sur l'extrême droite pour faire passer leur texte, car les socialistes voteront contre, tout comme les centristes de Renew, les Verts ou The Left. L'eurodéputé socialiste espagnol Javi López nous explique pourquoi.
Nous, socialistes européens, dénonçons la vague de répression que connaît le pays. Non seulement maintenant, après les élections du 28 juillet, mais aussi depuis de nombreuses années. Nous dénonçons la dérive autoritaire que connaît le régime Maduro. Nous exigeons que la volonté du peuple vénézuélien exprimée dans les urnes soit respectée. Le résultat exprimé par l'autorité électorale n'est pas crédible ni légitime. Et nous soutenons tous les efforts de la communauté internationale, du Brésil, de la Colombie, de l'Union européenne, pour trouver une transition pacifique vers le retour de la démocratie au Venezuela. Mais nous pensons que la reconnaissance de la victoire d'Edmundo González, le leader de l'opposition, aujourd'hui, n'est pas cohérente avec ce que fait l'Union européenne. Parce que cette reconnaissance n'est faite par aucun des 27 pays membres. Personne n'a reconnu cette victoire. Deuxièmement, parce que nous pensons qu'elle n'a pas non plus une légitimité suffisante. Car pour reconnaître un résultat électoral, il faut disposer de l'ensemble du corps électoral. Nous disposons d'indicateurs selon les lequel Edmundo González, le chef de l'opposition, a remporté très probablement les élections, mais pas l'ensemble du corps électoral. Et puis troisièmement, pour une question d'utilité. Nous avons reconnu M. Guaido comme président légitime du Venezuela il n'y a pas longtemps, et cela a eu aucun effet. En fait, cela a eu pour effet d'enfermer davantage le pays, de rompre les voies de dialogue et de rapprocher d'autres forces et puissances étrangères comme la Russie ou l'Iran du Venezuela. Tel est le résultat honnête, si l'on peut dire, de cette opération. Et c'est pourquoi cette reconnaissance n'a aucun sens.
Demain, un cordon sanitaire va être rompu puisque la résolution du PPE va être appuyée par les groupes d'extrême droite. Est-ce que c'est grave selon vous ?
Je trouve extrêmement grave que le Parti populaire européen cherche une position commune sur le Venezuela avec les trois groupes d'extrême droite. Non seulement avec le groupe de Mme Meloni, mais aussi avec le groupe de M. Orban et de Mme Le Pen, ainsi qu'avec le groupe d'extrême droite allemand, AfD, qui a été exclu des deux autres en raison de ses prises de position néo-nazies. Le Parti populaire européen recherche ce soutien pour construire la position du Parlement européen sur la question fondamentale de l'avenir du Venezuela et de sa démocratie. C'est une question sur laquelle nous partageons la plupart des positions, la même analyse de la répression, la même analyse de la nécessité à une solution démocratique de la crise, mais pas de cette manière-là, pas avec ce levier.
Y divergemos sobre el instrumento.
Comment envisagez-vous l'avenir du Venezuela ?
Je crois que la seule façon d'avancer est d'impliquer la communauté internationale en cherchant une voie de dialogue qui permettra une transition dans le pays, une transition pacifique vers la démocratie, sans vengeance, sans effusion de sang, ce qui est l'un des risques. Et pour cela, non seulement la communauté internationale, mais aussi les voisins du Venezuela doivent jouer un rôle clé dans la recherche d'une solution négociée. C'est fondamental. Tôt ou tard, le pays reviendra à la démocratie, car la situation est insoutenable à long terme.
Porque es insostenible a largo plazo su situación.
L'eurodéputé socialiste espagnol Javi López au micro de Romain Le Maresquier.
Le journal de l'Outre-mer.
On vous retrouve, Benoît Ferrand, pour parler d'abord de la Martinique. Malgré les barrages et les dégradations qui se multiplient, le préfet persiste et signe. Pas question pour lui de retransmettre en direct les réunions de travail consacrées à la problématique de la vie chère.
Oui, Jean-Christophe Bouvier reste, comme on dit, droit dans ses bottes. Il n'autorisera pas la diffusion en direct live des tables rondes, comme l'exige le mouvement à l'origine des troubles actuels, le RPRAC, le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens.
Est-ce que vraiment l'usage, l'ouverture des tables rondes à la vidéo peut justifier les destructions auxquelles on assiste? Alors, est-ce que nous nous rendons compte qu'au prétexte que des réunions ne seraient pas filmées, nous mettons la vie en danger des forces de sécurité?
Mais
est-ce qu'on a la juste
question,
valeur des choses?
Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à ouvrir ces discussions?
Je l'ai déjà dit, et c'est une
et
demande...
Et laisser la population juger de la complexité.
C'est une demande qui est formulée aussi par des participants aux tables rondes et aux réunions techniques. Quand une caméra est présente, il y a des postures, des jeux de rôle qui viennent perturber la confiance et la fluidité des échanges.
Donc c'est la réponse est non.
C'est pas un détail. Ma réponse est non, parce que notre intérêt est d'aboutir à un résultat. Notre intérêt et l'intérêt de tous les participants à ces tables rondes et à ces groupes de travail est de parvenir à un résultat concret.
A signaler ce mercredi matin de nouveaux barrages à l'entrée sud de Fort-de-France et un incendie criminel qui a sérieusement endommagé cette nuit un fast-food de bien connu. Autre déclaration hier sur les antennes de la première Martinique, celle d'un vieux sage, Claude Delise, 83 ans aujourd'hui, ancien président du Conseil général, ancien sénateur et ancien président de l'Assemblée de la Martinique.
C'est vrai que la Martinique est en colère. Elle est en colère parce que, encore une fois, les gens ont le sentiment que le temps passe et qu'il y a une surdité de l'État. C'est ça qui crée cette colère. Ça a été pendant longtemps une revendication, on sera passé à l'exaspération, aujourd'hui il y a de la colère. Mais la colère ne doit pas entraîner des débordements de toutes sortes, ne doit pas finalement se retourner contre nous-mêmes. C'est pas en déstructurant le pays, c'est pas en déchirant notre tissu social que l'on va répondre à l'attente des Martiniquaises et des Martiniquais. Et je veux signaler que si la vie chère est une chose extrêmement importante, mais il y a un deuxième sujet qui les préoccupe beaucoup, c'est la violence. Il y a de la colère contre la vie chère, mais il y a une très grande angoisse. Les gens se sentent en insécurité. Donc il faut faire très attention en menant des mouvements, si justifiés soient-ils. Je dis bien si justifiés soient-ils. Il faut faire attention à ne pas contribuer à une banalisation du recours aux armes à feu.
Bon après-midi, Anne. À demain.
Merci Benoît Ferrand et merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée aujourd'hui par Vincent Biteau. Merci à lui. On se retrouve nous demain 11h temps universel, mais vous restez sur notre antenne. Dans quelques secondes maintenant, de vive voix avec Pascal Paradou. Très bonne journée à tous.
MIRA, la foire d'art contemporain latino-américain, se tient du 18 au 22 septembre à la Maison de l'Amérique latine à Paris. MIRA, une plateforme de découverte et une vitrine de talents pour explorer la diversité, la richesse et l'innovation artistique d'Amérique du Sud. Du 18 au 22 septembre. Plus d'informations sur mira-artfair.com. En partenariat avec...